Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour à tous, bon dimanche à tous, merci de nous écouter. On va faire notre marché ensemble en ce joli dimanche. Le soleil est un peu partout sur notre territoire. Comme le jour où je suis allé en Médoc la semaine dernière, figurez-vous que je voulais vous parler des vendanges et du vin qui se prépare et où mieux le faire que dans ce vignoble bordelais qui est un peu le symbole de notre viticulture française dans ce qu'elle a de meilleur. J'étais dans le Médoc avec ceux qui font du vin et pas n'importe quel vin.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors ce matin, j'ai beaucoup de chance, je suis dans un grand soleil automnal dans le château du Cru Beaucailloux, qui est un cru classé de Saint-Julien, dans le Bordelais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Et je suis avec le propriétaire de ce domaine, Bruno Bory, qui est à côté de moi. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors les vendanges, elles sont terminées depuis très peu là.
Absolument, on vient d'ailleurs tout juste de fêter ça avec malheureusement pas un grand banquet comme on a l'habitude à cause du Covid, mais une belle célébration sympathique.
Bon, alors, cette célébration, c'est pas du folklore, hein. C'est d'abord la façon qu'ont les propriétaires viticoles de remercier en fait les vendangeurs.
Oui, et surtout cette année où c'était très compliqué, honnêtement, il fallait vraiment remercier tout le monde et on est très content. Nous, on a une équipe qui est à la fois une équipe permanente, mais on a aussi des gens qui nous rejoignent pour les vendanges, que ce soit des gens locaux, mais aussi des Andalous qui nous font l'honneur, j'allais dire, de nous rendre visite chaque année depuis le même village de Valdepeñas de Jaén et qui sont formidables.
Donc, depuis combien de temps ?
50 ans.
50 ans. C'est fou.
De père en fils et de grand-père en petits-enfants qui viennent là. Donc, non, c'est vraiment très attachant. Vous savez, les vendanges en même temps, c'est un travail agricole, c'est un travail qui est pénible, hein. C'est un travail qui est dur, surtout difficile quand on a une météo peu clémente comme on a eu au début cette année. Donc, c'est important d'avoir des gens qui soient ruraux et qui soient habitués à ces conditions de travail.
Alors c'est intéressant parce que dans l'imagerie populaire de ces grands châteaux, de ces grands domaines médocains, dont du Cru Beaucailloux fait partie évidemment, comme cru classé, on n'a pas du tout cette vision paysanne des choses. Vous nous parlez presque d'agriculture et de paysans qui travaillent sur l'exploitation, alors que nous on a l'impression que c'est le château qui prime.
Vous avez raison, c'est les châteaux ont été construits au 18e, 19e, et etc. Et finalement, c'était l'emblème à faire figurer sur l'étiquette. C'est essentiellement ça, la mission du château. La réalité, c'est qu'on est des paysans et qu'on dépend effectivement de la nature, qu'on dépend de la météo, et qu'on doit être chacun. Et c'est une culture qu'on doit en permanence raviver. On est des paysans et on doit être fiers d'être des paysans.
Et travailler avec des paysans, c'est des gens qui travaillent la terre, hein, parce que le métier de faire du vin et des grands vins, comme ceux que l'on trouve ici, c'est d'abord la viticulture, c'est-à-dire le travail de la vigne, puis la vinification et la commercialisation. C'est un peu, il faut être un génie dans les trois pour pouvoir vraiment s'en sortir.
Ou alors avoir des bonnes équipes qui nous aident sur les trois plans. Et puis le quatrième, c'est-à-dire qu'il faut aussi compter. Donc il y a quatre domaines. Mais oui, c'est ça. En fait, ce sont des grandes entreprises agricoles, comme je disais tout à l'heure, à vocation viticole, et effectivement des productions qui sont exportées partout dans le monde, puisqu'effectivement du Cru Beaucailloux, on doit être à 80% à l'exportation, un peu moins sur les seconds et troisièmes vins, mais sur le premier vin, on est 80% d'exportation. Et donc c'est important d'avoir cette vision aussi globale, j'allais dire, de nos marchés.
Et des goûts du grand public. Bruno Bory, à vous entendre, j'ai un adage moi qui me revient en tête. J'ai souvent entendu dire un grand vin se fait dans la vigne, pas dans le chai. C'est-à-dire que le travail de la vigne, ce travail agricole, il est plus, je veux pas dire qu'il est plus important, mais qu'il est primordial avant de penser à la vinification.
il faut pas l'oublier, mais c'est sans doute une différence qui avait été faite avec, enfin, qu'on doit faire avec les vignobles californiens ou les vignobles du Nouveau Monde, où souvent c'est séparé entre le producteur de raisins d'un côté, le vinificateur de l'autre, et effectivement avec des vinificateurs qui sont devenus des stars. On pense déjà dans les années 70 à André Tchelitchev, etc., en Californie. Mais effectivement, ici, non. Ici, dans les propriétés médocaines, c'est les mêmes équipes, et c'est un corps, une équipe entière qui travaille dans la vigne et qui travaille dans les chais. Et chacun est important. Notre mission, si on veut la résumer, c'est d'accompagner la nature à exprimer le meilleur d'elle-même. Donc l'accompagner dans les champs, dans le vignoble, mais l'accompagner aussi au long des vinifications, parce que forcément, effectivement, la vinification, c'est quelque chose de très contrôlé. On choisit un itinéraire de vinification, on choisit un itinéraire de maturation en barrique, etc. Tout ça, c'est des choix et c'est du contrôle, et tout ça pour essayer d'optimiser au maximum ce que la nature nous a donné.
Alors, avant de me tourner vers Emmanuel, votre directeur technique, Bruno, j'aimerais savoir, au fond, qu'est-ce que c'est un Saint-Julien par rapport aux autres crus ici du Médoc, par rapport à un Margaux, par rapport à un Pauillac, par exemple. Et qu'est-ce que c'est du cru Beaucailloux par rapport aux autres Saint-Julien qui vous entourent? On a Bégevel en vue, enfin des noms bien connus. On a Léoville, évidemment, qui est pas très loin. Quels sont les particularismes d'un Saint-Julien parmi les autres crus, et quelles sont les particularités de votre propriété parmi les autres?
Mais d'abord la péninsule du Médoc, c'est cette grande presque île qui est lancée comme ça au nord de Bordeaux, précisément entre, d'un côté, l'estuaire de la Gironde, qui fait quand même ici 5 km de large. Donc on imagine son rôle dans l'écosystème de tout le Médoc, son rôle protecteur pour les vignobles. Et puis de l'autre côté, l'océan Atlantique, évidemment cette proximité, ce climat tout à fait raisonnable qui nous est amené par l'Atlantique. Donc cette grande presqu'île, en plein milieu de cette presqu'île, vous avez Saint-Julien. Cette petite commune, c'est l'une des plus petites appellations, à peu près la même taille que Pomerol de l'autre côté de l'eau, donc à peu près 900-950 hectares de vignobles. Et quelque part, c'est un peu la synthèse entre, dans les vins, entre une élégance, un raffinement de Margaux et une puissance contenue d'un Pauillac ou d'un Saint-Estèphe. On est exactement à la synthèse des deux, même si, en fait, la qualité des vins, je pense, se reflète dans... Et l'exact reflet de cette géographie. On est une expression originale entre des styles un peu affirmés, un peu appuyés au nord, et des styles un peu évanescents au sud. On a juste des vins qui sont formidables.
Saint-Julien, c'est la voie du milieu, quoi.
C'est la voie du milieu, et c'est une voie, c'est la voie de la raison, bien évidemment. Et au milieu, du cru Beaucailloux. Du cru Beaucailloux, on est situé, comme vous le voyez ici, avec la vision sur l'estuaire, qui est juste à nos pieds ici. Beaucailloux, ça veut dire qu'il y a des sols qui sont des sols de graves, et donc beaucoup de cailloux, et une proximité de l'estuaire, ce qui fait qu'on a un écosystème qui est particulièrement favorable à l'élaboration des grands crus. Qu'est-ce qui fait un peu l'original, c'est qu'on est l'origine de Ducru Beaucailloux, c'est ce côté un peu archétypal, c'est de cette élégance, de cette noblesse, de cette race finalement que vous trouvez dans les Saint-Julien. Quand les Ducru prennent un peu d'âge au fur et à mesure de leur vieillissement, les arômes qui au début sont sur des fruits noirs, surtout dans les derniers millésimes où on a ça qui est très très pressant, mais au fur et à mesure du vieillissement, on a des arômes de cèdre qui viennent, qui sont très typiques, hein, la boîte de cigares, et en prenant un peu plus d'âge dans les millésimes les plus puissants, ce côté cigare, ce côté havane éteint, ce côté très très puissant. Alors dans les millésimes un peu plus légers, on est sur du tabac blond, mais dans les millésimes un peu plus appuyés, un peu plus puissants, on est sur ce côté-là de cigare froid qui est vraiment formidable, caractéristique. excessivement élégant, agréable. Et puis le style, c'est de l'équilibre. C'est jamais dans l'outrance. Ce sont jamais des tanins trop puissants. Vous avez jamais de côté râpeux. Vous avez toujours des tanins qui sont d'un soyeux absolu. C'est vraiment ça, un grand du Cru Beaucailloux. C'est ça qu'on essaie de faire chaque année et qu'on arrive à faire de temps en temps.
Allez, encore une minute avant de parler de la vendange de cette année avec votre équipe. Moi, j'ai une question. Est-ce que Bordeaux est réconcilié avec les Français après des périodes de Bordeaux bashing dues peut-être à la presse viticole qui en voulait un peu à Bordeaux de ne vendre qu'à l'étranger? Est-ce qu'il y a une réconciliation du Français avec Bordeaux?
Moi, j'en rêve personnellement, et je pense que tous les Bordelais en rêvent, et etc., parce que c'est effectivement un peu... Ouais, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'on on s'est certainement pas, comme d'habitude, on s'est pas assez parlé, et qu'on aurait dû plus se parler, et qu'on aurait dû plus travailler avec la clientèle française, notamment avec la restauration, et c'est vrai, avec les sommeliers. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est en bonne voie. Nous, on a reçu à plusieurs reprises beaucoup de sommeliers avec beaucoup d'intérêt. Je pense que Bordeaux offre, c'est la plus grande surface viticole de France, hein. C'est une super région avec des vins depuis les entrées de gamme. Aujourd'hui, on disait toujours Bordeaux c'est cher parce que les gens finalement n'avaient pas vraiment découvert ces Bordeaux, toutes ces appellations formidables que vous avez. Et alors ma région, évidemment, le Médoc, le Nord Médoc que j'adore parce que d'abord c'est une belle région magnifique et etc. Mais avec des vins qui sont à la fois pas cher du tout et même certainement pas assez cher, mais qui sont délicieux et qui vraiment feraient le bonheur de beaucoup de consommateurs. Il faut juste qu'on fasse un peu de notre travail à nous aussi, de nous faire connaître, nous faire apprécier. Je nous mets ce match et ce challenge entre les mains, mais je crois que c'est ça, c'est qu'on s'est pas assez vu. Donc voyons-nous, parlons-nous, mangeons et buvons ensemble.
Et stop à l'autoflagellation de certains, mais vous faites bien la promotion de la région et de votre vignoble. Allez, restez avec nous, on se quitte deux minutes et on se retrouve avec l'équipe technique du château du Cru Beaucailloux ici à Saint-Julien pour parler un peu de la vendange de cette année.
Et c'était... Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Mes amis, retour au château du Cru Beaucailloux, ici à Saint-Julien, en Médoc. Vous savez, Bruno Bory, qu'on écoutait à l'instant, nous disait c'est une presqu'île, hein, le Médoc, coincé entre cet estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, avec évidemment des influences climatiques. Et on va en parler tout de suite, figurez-vous, parce que la vendange vient de se terminer et que je suis à côté d'Emmanuel Bonneau, qui est le directeur technique du domaine, et de Cécile Dupuis, qui est directrice de la recherche et du développement, deux domaines qui s'interpénètrent un petit peu, il faut bien le dire, hein, pour réaliser des prouesses ici, et notamment au moment des vendanges. Bonjour, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, je disais, cette année, c'est pas un mystère, je crois que tous les Français l'ont vécu, un climat extrêmement compliqué, un mois de juillet pourri, on peut le dire carrément, ce qui n'est pas bon, hein, pour les maturités, j'imagine, et puis une vendange entre ombre et lumière, j'ai envie de dire, entre jour de soleil et jour de pluie. Ça a été une année compliquée ?
Très compliquée. Ça a été difficile. Ça a démarré dès le lundi de Pâques. Le téléphone qui sonne à 6h15 et qu'annonce la première gelée. Donc celle-là, elle a pas posé de dégâts. Par contre, dès le lendemain, on enchaîne 10 jours incessants de nuit de protection du vignoble contre le gel.
Et comment est-ce qu'on fait? Vous qui êtes directeur technique, j'imagine que c'est vraiment votre boulot, ça, à un moment, de trouver des solutions.
Alors les solutions, on avait déjà commencé à y travailler avec le gel de 2017. On s'est rendu compte qu'on pouvait geler en 2017, qu'on pouvait geler en 2018, qu'on pouvait un peu geler en 2019. Et en fait, le vignoble n'avait pas connu ça depuis 1991.
Ah oui.
Donc c'est un réveil, tout d'un coup, le climat.
On l'avait oublié.
On l'a oublié, oui. Et donc là, on essaye sur une première partie du vignoble des éoliennes. On en est plutôt satisfait.
Des éoliennes qui sont dévolues à ça. C'est pas les éoliennes qu'on voit pour faire de l'électricité.
Qui sont spécifiques à la protection des cultures. D'accord. Et spécifique notamment à la protection du vignoble. Donc on en achète 3, et puis on complémente le parc, et puis on finit par protéger toute la partie du vignoble, de notre partie de notre vignoble de Saint-Julien, qui est plutôt sensible au gel.
Alors on est bien d'accord que là on parle d'investissement lourd, hein, j'imagine. Donc c'est possible sur des propriétés de cette taille et de cette amplitude, on va dire, financière. Pour des petites propriétés, ils subissent ce gel ou ils subissent les conditions climatiques.
Ils subissent déjà le morcellement de leur vignoble. Mmh. C'est pas facile sur un vignoble morcelé de pouvoir mettre en place des moyens. Donc,
parce qu'il faut passer de l'un à l'autre, se trimballer d'un site à l'autre.
Oui, sauf que le gel, il est en même temps pour tout le monde le même matin. Mmh. Donc je sais qu'on a des voisins qui, eux, pensent à mettre en commun des moyens, par des coopératives d'utilisation de matériel agricole ou par d'autres moyens. Et je pense que c'est des choses qui sont en réflexion dans la région et il y aura plus en plus de parcelles qui seront protégées pour le gel.
De différentes façons, hein, parce que ça aussi, ça fait partie du travail de chercher comment contrer en définitive le dérèglement climatique.
On a eu le dérèglement climatique effectivement pour le gel, ça c'est un gros sujet, parce que si dès le départ on part avec 100 vendanges, 100 bourgeons qui donnent les raisins et ces raisins qui donnent la vendange, on va louper des millésimes, donc on est obligé de trouver des solutions à ça. Mais le millésime, il ne s'est pas arrêté qu'au gel. On a eu un peu de répit en avril, mais alors dès le mois de mai, c'est l'arrosoir et le robinet d'eau qui s'ouvrent. Et avec aussi quelques épisodes de grêle. Nous, à Saint-Julien, on a plutôt été protégés. Il y a des systèmes au niveau de l'appellation pour protéger le vignoble. Donc on n'est pas trop sujet à la grêle, mais ça a eu fait partie du millésime. En tous les cas, d'un point de vue national, on a bien entendu tous la radio, la télé. Il n'y a pas beaucoup d'ignobles qui ont été épargnés. En Médoc, on a plutôt été épargnés par la grêle. Mais tout ce millésime, c'est de l'eau en mai, en juin, en juillet, avec un moment de répit au moment de la floraison. On a eu 15 jours là où on n'a pas eu trop de pluie. Donc,
T'es heureux parce que la fleur, elle est fragile. Toujours. Et il faut qu'elle soit fécondée.
Et il faut qu'elle soit fécondée. Pas de fécondation, pas de raisin.
Là, vous avez une fenêtre météo propice, on va dire, à la floraison et à la fructification.
Oui, on a eu au moins cette période-là de où ça s'est à peu près bien passé. Et puis, on a eu, heureusement, 15 jours entre le 15 août et le 30 septembre, avec presque un été, surtout la dernière semaine d'août.
Ça a séché, en fait. On va dire que ça a rendu un état sanitaire qui était un peu précaire.
Ça a protégé le raisin, ça l'a remis en route pour aller vers une maturité convenable. Ça a sauvé le millésime. Et les 15 premiers jours de septembre ont créé une contrainte hydrique qui a permis au raisin d'avoir une maturité phénolique plus que convenable et une maturité technologique plutôt des années 80.
Ah oui, à écouter Emmanuel, on se rend compte que la vie du raisin, entre le bourgeon et la vendange, c'est un truc à épisode, c'est un feuilleton télé, quoi. C'est terrible. Alors, je me tourne vers Cécile. Vous êtes la responsable de la recherche et du développement. J'imagine que dans ces périodes, qui sont stressantes, pas seulement pour la vigne, mais aussi pour le personnel, hein, des domaines, et pas que ici, hein, dans tout le vignoble autour, dans le Médoc, dans les appellations voisines, vous êtes l'œil rivé sur les applications météo pour essayer de savoir ce qui va se passer.
Alors effectivement, moi et ma collaboratrice sommes rivés sur les différentes synthèses météo et leur réajustement d'heure en heure. Et bien évidemment, on se parle beaucoup avec Emmanuel, on s'appelle parfois le matin très tôt dans la voiture pour savoir si on a vu les mêmes choses. Voilà.
Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est mes yeux ou quoi?
Voilà, et c'est le but à du Cru Bocaillou que le pôle R&D soit vraiment en contact avec le pôle technique et puisse alerter ou faire mention de choses qu'on aurait pu voir et que l'équipe technique aurait pu passer à côté. Voilà.
Ouais, ça veut dire que, en clair, un directeur technique, il travaille sur les solutions au jour le jour, alors que ce que fait la R&D, c'est évidemment prévoir et anticiper les prochains risques.
Alors, on essaye, mais on reste quand même les pieds sur terre pour ne pas trouver des solutions qui soient complètement en désaccord avec ce qui se fait réellement sur le terrain. Le but, c'est vraiment d'apporter des solutions pour faciliter la vie, on va dire, et essayer d'obtenir le meilleur raisin possible.
Alors,
pour tout le monde. Le but est le même pour les équipes techniques pour les, et R&D.
D'accord. Alors, heureusement qu'il y a un but commun qui est quand même faire le meilleur vin au bout du compte, hein, après la vendange. Alors la vendange, là, elle est passée. Je suis passé tout à l'heure dans le cuvier. Ça fermente, c'est parti. La vendange, elle s'est bien déroulée. Bon, avec des épisodes de pluie, mais là encore, on jongle un petit peu, hein. On jongle, Emmanuel, c'est ça ?
On est dans le sud-ouest. On a eu la chance d'avoir ces 5-6 derniers millésimes, pas de pluie pendant les vendanges, mais dans le sud-ouest, au mois de septembre, il pleut. Plus ou moins, mais on fait avec.
Oui, parce que la mer est pas loin et donc il y a des entrées maritimes tout le temps. C'est une météo qui est compliquée. Bon, on parle même pas de dérèglement climatique. On parle du risque normal pour un vigneron, effectivement, qu'à l'automne, il pleut.
Exactement. Qu'il pleuve à Bordeaux au mois de septembre, c'est plutôt dans la normalité.
Donc, ce qu'on fait, et là on s'adresse à vous qui nous écoutez, qui vous ne connaissez pas ce que c'est que la vinification, on va essayer d'avoir des raisins les plus sains possibles. Hein. C'est pas que l'eau va détremper, hein, on va pas faire rentrer trop d'eau avec les grappes, mais on a toujours peur de la pourriture en fait.
Exactement. Et cette année, il y en avait un peu, donc ça demandait beaucoup de travail aux vendangeurs. Ça a demandé beaucoup d'attention des chefs d'équipe pour que les vendangeurs trient bien les raisins sur pied. Ça a demandé aussi du travail des chefs d'équipe et des chefs de table de tri pour que le raisin manuellement soit bien trié. Et ensuite, aujourd'hui, on a des technologies à la réception chez de tri mécanique.
Alors là, je me tourne vers Cécile, hein, qui connaît ça par cœur. C'est incroyable parce que, à la fois, la viticulture, elle est très tradie. En définitive, avec une récolte, une vendange qui se fait à la main, etc. Mais tout d'un coup, quand on arrive sur l'étape de tri, on a l'impression qu'on rentre dans de la haute technologie.
Alors effectivement, l'étape de tri dernière génération, que ce soit du tri optique, c'est-à-dire que c'est une caméra qui permet de détecter si la forme du raisin, enfin de la baie, pardon, est ronde ou pas, parce qu'une baie qui serait atteinte de pourriture ne serait pas ronde, mais permet également de détecter si la baie est mûre ou pas par la couleur et également par l'aspect luisant ou pas de la baie.
Ça veut dire qu'il y a une robotisation du tri ?
Effectivement, il y a une robotisation du tri, mais on a quand même toujours besoin d'un premier tri à la vigne par les équipes manuelles.
Et puis de l'œil des équipes en dernier ressort aussi. Au moment où c'est terminé, il y a encore quelqu'un qui vient surveiller.
Voilà, donc il faut vraiment une synergie entre l'humain et la technologie. Et ensuite, le tri densimétrique que l'on a pu également tester cette année permet de trier en fonction des densités des différents raisins.
Ah, les densités, c'est très important. Tout ça grâce à des outils beaucoup plus performants que l'œil humain, hein, à un moment donné. Hein. Il y a un premier tri, puis ensuite, c'est évidemment l'expérience. Je vois Bruno Bory qui est là. Venez Bruno, parce que la question qui me brûle les lèvres, et je pense que c'est vous qui allez nous le dire, en définitive, ce millésime, il va être comment ? Le Saint-Julien que vous faites, comment va-t-il être ? Décrivez-le-moi.
Ben, on a été, honnêtement, là, puisque on est juste à la fin des vendanges, on a été d'abord excessivement satisfait de recevoir la première analyse qui nous a rassurés, peut-être même au-delà de ce qu'on attendait, parce que vous savez, on était un peu pessimiste avec cette pluviométrie, etc., etc. Et les premières analyses sont tout à fait encourageantes au niveau des tanins, des anthocyanes, avec peut-être un peu moins d'alcool que d'habitude et peut-être...
Les tanins, les anthocyanes, c'est quoi ? C'est les substances qui sont dans la peau du raisin.
Voilà, ce qui fait le corps du vin et qui garantit aussi sa durée dans le temps. Et il y a un œnologue et un consultant bordelais qui a donné une très très belle définition de ce millésime qui s'appelle David Pernet et qui a dit bon, finalement ça sera pas exactement le millésime du siècle, mais ça sera plutôt un millésime du siècle passé.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Mais surtout, d'abord, je trouve que c'était sympa parce que c'était un peu pour les Bordelais qu'on se dit toujours d'arrogant, et qu'évidemment chaque année on fait le millésime du siècle, donc là il a la modestie de le dire, et c'est vrai, ça sera pas le millésime du siècle, mais par contre ça sera un millésime tout à fait intéressant. Et certainement avec ces qualités qu'on adore aujourd'hui, des millésimes des années 80-90, qui étaient des vins tout à fait équilibrés, très très rafraîchissants, avec peut-être un peu plus d'acidité, un peu plus de présence comme ça et d'élégance, un style un peu différent de ces vins beaucoup plus puissants et structurés qu'on a pu faire dans ces deux ou trois derniers millésimes, puisque évidemment on sort d'une très très belle trilogie, hein. On a un super 2018-19-20, c'est vraiment exceptionnel dans l'histoire de Bordeaux, mais là on a un style qui revisite les années 80, à mon avis, avec beaucoup de bonheur.
Sud Radio, Fernio-Felmarché.
Voilà mes amis, quelle belle balade dans le vignoble au château du Cru Beaucailloux. Que de beaux souvenirs déjà. D'ailleurs, je vous invite à visiter le vignoble bordelais. On le boit souvent, on le visite moins souvent. Et pourtant, le territoire est charmant, surtout quand il fait beau temps. Allez, on ne se quitte que deux minutes pour revenir. On continue à déguster ici dans Fernio-Felmarché.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Allez les amis, il fait bien fin ce matin vers 11h30, toujours, hein, toujours le dimanche matin. Alors c'est vrai qu'on a parlé de beaux breuvages en première partie d'émission, là, pendant cette demi-heure où nous étions dans les vignes du côté de Saint-Julien en Médoc. Et pour vraiment apprécier le vin, il faut quand même avoir des choses à déguster avec. Et bien justement, on va faire ensemble un grand repas, figurez-vous. Et je reçois ce matin Emmanuel Hervé, qui est le patron du grand, de ce grand repas dont on va parler. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Emmanuel, d'abord, dites-nous en mots simples, parce que ce grand repas, il s'est adressé à 13 départements hein, cette année en France.
Oui, c'est la deuxième édition, on l'avait fait en 2019. Cette année, on a touché donc 22 départements. Avec 13 menus.
C'est ça, 13 menus dans 22 départements.
Voilà. Puisqu'on associe parfois un ou deux départements ensemble, de manière à proposer aux citoyens le même menu local, à base de produits locaux et de saison, sur un même terroir, d'où l'aspect départemental, qui est la bonne dimension, le même jour. Donc les trois règles du théâtre classique, même temps, même lieu, même action.
On peut dire grosso modo que c'est la plus grande table qui réunit le plus grand monde en France.
Oui, là, nous avons 280 000 citoyens qui ont partagé cet événement pour cette édition 2021.
Alors, qui a été à l'initiative de ce grand repas ? D'où est venue l'idée ?
Écoutez, j'ai lancé l'initiative en 2016, en Touraine, étant de Touraine, dans le cadre d'actions en lien avec les projets de Cité de la Gastronomie. Et l'objectif était non pas de construire un bâtiment, mais de toucher les citoyens au sujet de l'alimentation, la qualité de l'alimentation et des valeurs du repas. Et donc, on l'a lancé en 2016, ça a très bien fonctionné. Et donc, en 2019, nous avons lancé l'association Le Grand Repas, éponyme, avec Thierry Marx et Guillaume Gomez pour le déployer sur l'ensemble du territoire français, national.
Alors, vous dites, c'est pas construire un bâtiment, parce que vous êtes un peu dans le secteur du bâtiment, quand même.
Oui, donc je suis absolument pas dans la restauration en tant que telle, mais le repas est de bons produits et bien cuisiné. C'est un vrai plaisir avec des amis, donc je tiens particulièrement aux valeurs portées par le repas. Vous savez, le repas, c'est le partage, la convivialité, le rapport autrui, la curiosité, c'est valeurs humanistes. Et c'est une partie de l'art de vivre à la française, et c'est éminemment important aujourd'hui dans notre société. Tout le monde ne mange pas tous les jours, ou tout du moins même avec d'autres personnes, donc le repas pris en commun est quelque chose qui est porteur de beaucoup beaucoup de valeurs sociétales. Et à travers cet événement, ce que l'on souhaite, c'est valoriser les acteurs locaux. Donc j'y tiens vraiment, c'est pas un événement national qui s'applique au local. On part des acteurs locaux, des départements, des terroirs.
Et on mutualise,
et
en quelque sorte.
C'est la somme des événements locaux qui feront peut-être un événement national. Pour sensibiliser les citoyens plusieurs thématiques qui se conjuguent et qui se recoupent à travers le repas, à savoir les circuits courts, la qualité de la production, la manière dont on produit, et qui rejoint aussi le développement durable de notre planète, l'anti-gaspillage alimentaire, qui va avec, l'éducation au goût, élément extrêmement important, on le voit auprès des enfants, les enfants qui ont une sensibilisation à la variété des produits garderont toute leur vie un avantage relationnel par rapport à la curiosité que cela engendre, la santé. C'est un investissement de monter le niveau de qualité des repas en cantine.
Bien sûr, parce qu'il y a un impact sanitaire direct.
Immédiat et dans le temps. Sur 10 ans, par rapport à toutes les problématiques de santé publique que l'on peut avoir, ça se retrouve puissance 10, entre guillemets, par rapport à l'effort qu'il faut faire pour monter un petit peu la qualité de l'alimentation tous les jours. Et enfin, le plaisir. C'est extrêmement important, et il ne faut pas l'oublier, le plaisir de partager ensemble un moment convivial.
Alors, c'est peut-être pas un hasard s'il y a un rapprochement entre la naissance du grand repas avec l'entrée du repas français à l'UNESCO, comme patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs en lien avec cette thématique, en 2016. Par contre, là, on ne focalise pas dans cet événement sur le repas gastronomique, qui est un atout historique, d'accord, mais au contraire de partir du repas, mais le repas
populaire.
Au sens le repas quotidien,
voilà, c'est ça.
Et qui est beaucoup plus vivant, et pour ne pas le garder sous une forme trop figée par rapport à l'histoire, même s'il faut s'en inspirer, pour que ça touche justement la diversité de la manière de se restaurer de nos concitoyens.
Oui, parce que le côté gastronomique est un tout petit peu excluant, hein, il faut bien le dire, parce qu'on est dans le haut de gamme, la haute cuisine.
Et tout le monde ne peut pas y accéder.
Voilà, absolument, d'un point de vue économique simple, absolument. Hein, absolument. Et alors vous avez évidemment des grands parrains. Que sont Thierry Marx et Guillaume Gomez, deux grands chefs qu'on connaît bien, d'autres chefs qui participent, hein, bien entendu, mais les acteurs, ceux qui mettent en œuvre cette cuisine, ce ne sont pas des grands chefs étoilés.
Non, justement, disons que les chefs étoilés, ou même Guy Savoy, qui était le parrain sur Paris, nous aident en prêtant leur notoriété et leur image, mais c'est pour justement faire un lien avec la restauration traditionnelle et la restauration collective, public et privé, dans nos cantines, dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, dans les restaurants d'entreprise, là où 90% de la population se restaure, pour élever, justement, et favoriser la... En fait, c'est aussi, il faut donner du sens et raconter, quand vous avez un produit, que vous savez par qui il a été produit, quel producteur, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, au niveau local, et la manière dont on l'a cuisiné, dont on vous le prépare, en racontant, en vous donnant envie, vous allez déjà déguster le repas différemment. Hier, j'étais dans une école, il y avait des enfants d'un CP, c'était sur Paris, les professeurs avaient expliqué avant le repas l'ensemble des thématiques que nous venons d'évoquer. L'anti-gaspillage, la production, les produits locaux, etc. Et l'éducation au goût. Naturellement, ils ont pris un plaisir différent au moment du repas parce qu'ils étaient dans un environnement de sensibilisation qui leur a donné une ouverture par rapport à la manière de vivre ce repas ensemble. Mmh. Ils étaient adorables, ils posaient des questions pertinentes, ils font le tri en sortant des déchets, il y a un accompagnement et il y a un surcoût, par exemple, pour une cantine scolaire.
Bien sûr.
C'est un surcoût, mais je pense que c'est un vrai enjeu, au sens noble du terme, au niveau politique, d'élever de 50 centimes le prix des repas et d'aider à ce que ces acteurs-là puissent le faire, parce que tous les citoyens ne peuvent pas mettre 50 centimes de plus, mais d'aider, ça va se retrouver absolument dans la manière de vivre ensemble. Et j'avais discuté avec le président des Crous de France, ou des Crous, il y a plusieurs années. Il m'avait expliqué que les étudiants qui se resteraient de manière collective réussissaient mieux que ceux qui se resteraient de manière individuelle. Non pas du tout par rapport à la qualité des produits. Parce que quand on est en contact avec
l'échange,
les autres,
quoi.
L'échange, les contacts, ça donne des solutions dans la vie en général pour plus tard, quand on rencontrera des difficultés.
La connexion, quoi.
La connexion.
Être connecté au monde
aux autres,
à travers les autres.
Aux autres.
Mmh.
Et donc, il y a le lien avec les autres et le lien avec la planète pour avec la manière de produire d'une manière différente. Et c'est un vrai investissement parce que les circuits courts, on ne se veut pas excluant du tout, on n'est pas dogmatique sur cette démarche. Il y a du bio, mais il n'y a pas que du bio. C'est la qualité des produits est bien cuisinée.
Ah bon,
et ça, c'est un vrai enjeu.
Et ce surcoût, il est évidemment, on s'y retrouve quand on jette moins. Hein, parce que si c'est meilleur, on jette moins. Et alors du coup, pour que ça soit meilleur, vous faites cuisiner par des cuisiniers, je veux dire, dans toutes sortes de secteurs collectifs, des recettes de grands chefs, en revanche.
Absolument.
Hein, c'est eux qui mettent leurs recettes à disposition.
C'est ça, et qui vont décliner les acteurs de la cantine scolaire ou de la cantine d'un hôpital, etc., qui vont décliner la recette en fonction de leurs moyens, bien évidemment, la manière dont ils vont eux-mêmes faire la cuisine.
Bien sûr.
Et toujours pour prendre l'exemple de l'école, il y avait la responsable des cuisines de cette école qui avait fait un travail, et ça valorise ces acteurs-là aussi, de la restauration.
Bien sûr, ils se sentent partie prenante, du coup, moins rejetés.
Parce que la gastronomie française est vue à travers les grands chefs, et c'est très très bien, c'est normal, c'est ce qui nous donne une notoriété internationale. Mais il y a en nombre de personnes qui travaillent autour, c'est principalement dans les... Il n'y a pas que la restauration gastronomique. Et ce jour-là, ces acteurs-là sont valorisés et reconnus.
Bien sûr.
Et dans une période où on entend parler beaucoup de problèmes d'emploi, d'employabilité ou de recherche de postes dans la restauration et dans l'hôtellerie, de revaloriser et de faire le lien entre la restauration gastronomique et la restauration collective est un élément qui sera extrêmement positif également pour les mois qui viennent et les années qui viennent.
Mais Emmanuel Hervé, tant dans le secteur des grandes sociétés de restauration collective que chez des petites, oui, structures ou même des structures municipales.
Absolument. Nous avons beaucoup de cuisines centrales. Mmh. Qui participent, mmh, au niveau des collectivités, mmh, bien évidemment, au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des universités, au niveau, mmh, des hôpitaux, mmh, au niveau des EHPAD, mais tant restauration collective publique que restauration collective privée, bien évidemment.
Pouvez-vous nous donner un exemple d'un département et d'un chef qui ont bossé main dans la main avec un des succès qui avait lieu, c'était cette semaine, hein, puisque c'était jeudi, c'est ça ?
C'était jeudi, le 21, ouais, octobre, mmh, absolument. Mais pour donner un exemple sur la diversité des acteurs, vous avez, je vais prendre l'exemple de la Touraine, mais ça pourrait être n'importe quel autre des départements, mmh, un chef étoilé, donc qui a deux étoiles, qui est Christophe Hay, ouais, qui a travaillé le concept...
Dans le Blaisois, quoi,
absolument,
hein, à côté de Blois.
Qui a travaillé, mmh, avec Éric Guérif, qui est le responsable de la restauration du CHU de Tours, mmh, pour l'élaboration du menu. Pour le proposer, et c'est ce qui a fait qu'on a une très grande diversité d'acteurs qui, ce jour-là, ont participé sur la Touraine, et qui va des restaurants, donc je vous disais, de la restauration collective publique, privée, les restaurants traditionnels, les associations, vous aviez Jeunesse et Habitat, par exemple, mmh, qui fait, mmh, 80 ou 100 repas, mmh, qui participent. On touche vraiment, on met à disposition cet événement pour que les restaurateurs et les acteurs de la restauration proposent le menu du jour, ce jour-là. Alors, il est à la fois partagé localement, mais comme on relie après les 13 menus et donc les 22 départements, ça fait en même temps un partage non seulement local, mais aussi interdépartemental,
bien sûr,
et donc national.
Et ça donnera envie aux départements qui ne s'y sont pas frottés encore cette année de venir vous rejoindre l'an prochain.
C'est l'objectif,
hein, bien sûr,
absolument,
hein, d'élargir un peu.
Bah, de couvrir d'ici 2 ans la totalité des départements français
s'ils
et en faire un
infos,
événement national.
S'ils veulent des infos, il y a un site ?
Oui, legrandrepas.fr,
ouais,
et Facebook, bien évidemment, Instagram, mais le site legrandrepas.fr.
Eh bien, j'invite effectivement tous les acteurs de la restauration collective dans les départements qui n'étaient pas encore visités cette année à se manifester, hein, d'ici l'an prochain. Merci Emmanuel Hervé d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
On va aller à la rencontre d'un grand pâtissier que vous ne connaissez peut-être pas, un Breton, et c'est lui maintenant qui dirige la Confédération des pâtissiers de France. Allez, à tout de suite après la pub.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Allez, il nous reste encore un peu de temps après ce grand repas français pour terminer par le dessert et on parle pâtisserie, ou plutôt on parle pâtissier. Oui, il y a un nouvel homme fort à la présidence de la Confédération, c'est un Breton, c'est Laurent Le Daniel, et j'ai été le rencontrer parce que quand il y a un président des pâtissiers, on veut savoir quel est le programme.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors je suis avec Laurent Le Daniel. Laurent Le Daniel, meilleur ouvrier de France pâtissier et pâtissier artisan, pâtissier à Rennes, en Bretagne évidemment. Laurent Le Daniel, il est surtout le tout nouveau président de la Confédération des artisans pâtissiers. Bonjour Laurent.
Bonjour Vincent.
Alors vous étiez déjà le président pour la région Bretagne.
Oui, c'est ça. C'est un mandat que je porte déjà depuis 4 ans qui regroupe effectivement à peu près 50 adhérents, surtout de la Bretagne.
Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi la Confédération des artisans pâtissiers ? Qui ça regroupe ? Quel profil des affiliés et combien ça regroupe de monde ?
Alors, il faut déjà expliquer que la Confédération, c'est l'organe officiel qui représente la pâtisserie française. Ça comprend à peu près 4500 entreprises en France, dont 700 adhérents. Ça représente à peu près 25 000 salariés aussi sur tout le territoire français.
Mmh. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui ne sont pas affiliés également ? Ou est-ce qu'il y a d'autres organisations qui peuvent regrouper d'autres types de pâtissiers ?
Alors bien sûr, il y a des pâtissiers dans l'hôtellerie et restauration, il y a des pâtissiers chez les boulangers-pâtissiers, mmh, mais ceux-là, effectivement, ne font pas directement partie de notre corporation.
Ça veut dire que votre corporation, elle regroupe des artisans, sont aussi des patrons de PME, et ce sont surtout des pâtissiers, ce qu'on appelle dans le métier des pâtissiers, boutiques, hein, c'est-à-dire avec de la vente au grand public.
Tout à fait, hein, ce qui les différencie effectivement des pâtissiers de restaurant. Hein. Ce sont vraiment des gens qui sont à leur compte, qui ont une ou plusieurs boutiques et qui fabriquent tout eux-mêmes.
Alors vous, on ne peut pas dire que ce soit nouveau pour vous, parce que vous nous l'avez dit, vous avez fait ça pendant plus de 4 ans déjà à la tête de la Bretagne, donc vous êtes, je dirais, rompu à cet exercice. Pourtant, dans la vie de pâtissier, qui est déjà bien chargée hein, quand on fait un métier, parce que vous êtes aussi, vous faites partie de l'association des relais desserts, qui est un peu le haut du panier de la pâtisserie française et internationale, où est-ce que vous allez trouver le temps et quel est votre mandat? Qu'est-ce que ça recouvre?
Alors le temps, effectivement, ça s'organise. Hein. Je suis bien entouré dans mon entreprise. C'est vrai que si j'avais pas cette facilité d'organisation dans mon entreprise, je pourrais pas travailler sur ce genre de mandat. Alors comment que ça s'organise? Il y a beaucoup de choses à faire au sein de la Confédération. J'ai déjà beaucoup œuvré dans le passé, si vous voulez, sur le volet formation, hein, parce que effectivement, comme la Confédération, gère la profession, gère aussi toute la filière de formation. On a défendu, par exemple, récemment le CAP pâtissier avec l'Éducation nationale. Ça, c'est un travail assez long qui enfin porte ses fruits, parce qu'on veut des diplômes de qualité. On veut que les jeunes se forment du mieux possible, mais on veut aussi en contrepartie qu'il y ait une vraie valeur dans les diplômes qu'on délivre sur toute notre filière.
Ce CAP pâtisserie, est-ce qu'il est adapté, ce niveau d'études, on va dire, est-ce qu'il est adapté à la pâtisserie moderne, à la pâtisserie d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore un peu à dépoussiérer?
Bon, on l'a fortement dépoussiéré. C'est vrai que aujourd'hui, la complexité des parcours de formation, elle est très vaste, en fait, parce que on va avoir des gens qui veulent se former en pâtisserie de tout horizon. On n'est plus seulement sur un cursus sorti du collège ou de l'école. On peut avoir des gens en reconversion, on peut avoir des gens qui se découvrent en fait une passion pour la pâtisserie sur le tard. Et finalement, la pâtisserie peut accueillir tous ces gens-là dans la mesure où ils ont un vrai projet professionnel, évidemment.
Vous qui êtes meilleur ouvrier de France, comment est-ce qu'on fait le grand écart, ou plutôt on jette un pont entre la pâtisserie, la haute pâtisserie française, qui est quand même très empreinte de tradition et de techniques traditionnelles, et la pâtisserie actuelle du futur, tournée vers une jeunesse qui est en appétence, qui à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, a une envie de cette pâtisserie comme d'un métier de création? Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux?
Oh bah, je pense qu'on se laisse porter par un mouvement, hein, par le mouvement en fait, hein, d'abord en se tenant informé aussi de toutes les évolutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions dans les tendances, mais aussi dans le matériel, et faire partie d'une association comme Relais Dessert par exemple, moi, me permet de rester très au courant de tout ce qui se passe.
À la page?
Oui, c'est ça, j'aime pas trop parler d'élite, mais on est quand même un groupe de pâtissiers qui avançons tous ensemble et qui échangeons aussi beaucoup ensemble. Moi, c'est des valeurs auxquelles je crois beaucoup, et qui partageons aussi nos savoir-faire, nos techniques, etc. Et c'est comme ça qu'on se laisse porter pour être dans la tendance. Pâtisserie du futur, je ne sais pas, mais en tout cas, rester dans la tendance, c'est très important.
C'est drôle ce que vous dites, l'échange, hein, on n'a pas cette notion, parce qu'on a l'impression justement que lorsqu'on a cette vision de la grande corporation des artisans, c'est plutôt la concurrence avant qui était mise en avant, le fait qu'on gardait ses secrets de fabrication, qu'on ne voulait pas trop divulguer ses spécialités, alors que ce que vous décrivez là à travers les relais desserts, c'est au contraire un partage des recettes, des techniques, même des fiches techniques, même du sourcing produit.
Oui, je pense que le pâtissier d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui du passé. En fait, il partage beaucoup, il a envie d'avancer, il a envie de... on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est une notion très très importante pour moi, ça. Le partage, c'est aussi pour les générations qui viennent, en fait, parce que je pense que trop de gens dans le passé sont morts avec leurs secrets, et c'est quand même vachement triste, quoi. Je dis ça parce que, par exemple, je connais une pâtisserie au Japon qui s'appelle Au Bon Vieux Temps, et c'est un musée de la pâtisserie française, et parce que ce monsieur japonais avait appris tout en France, il a donc créé cette boutique à Tokyo, et aujourd'hui, moi j'ai redécouvert en fait des recettes françaises, mais qui ne sont plus pratiqués en France parce que justement les gens ont emporté ce genre de secret avec eux.
Bon, Laurent Daniel, un dernier mot. Vous êtes parti pour un mandat de 3 ans renouvelable. une fois, donc au plus 6 ans. Quel va être votre parcours de président de la Confédération des artisans pâtissiers? Quel est votre message et quelle est votre ligne directrice aujourd'hui?
Bon, la première chose, c'est que je pense qu'il faut justement réexpliquer le rôle de la Confédération, son importance en fait. Il a trop longtemps été bafoué, peut-être caché un petit peu. Quelquefois, sans juger, hein, c'est pas du tout mon propos, mais quelquefois par des pâtissiers un petit peu en fin de carrière. Et c'est vrai qu'il est difficile d'avoir une entreprise et d'avoir un mandat comme celui-là et de faire les deux du mieux possible en parallèle. C'est ce que je vais essayer de faire. Moi, j'ai plusieurs objectifs. Le premier, déjà, justement, c'est de rassembler un petit peu tous les pâtissiers, les faire revenir un petit peu dans notre giron pour qu'ils comprennent ce qu'on y fait.
Et les faire monter en gamme, peut-être, pour ceux qui sont un petit peu à la traîne.
Oui, alors ça c'est par un label de qualité, pourquoi pas, hein, il faudra faire de la pédagogie là-dessus, j'y crois beaucoup. Mais voilà, par exemple aussi, remettre un peu au centre de nos débats et de nos affaires, en fait, les conjoints des pâtissiers, parce que les pâtissiers peuvent être quelquefois en lumière, mais on a besoin de vendre nos gâteaux.
Souvent des affaires familiales, quoi.
Oui, il y a différents schémas aujourd'hui. Oui, hein, donc c'est pour ça que je ne veux pas enfermer mon propos dans un seul schéma qui, tant pis, je vais quand même le dire, c'est souvent effectivement l'épouse qui est au magasin et le pâtissier qui est au laboratoire. Mais
l'inverse, c'est vrai aussi, et puis il peut y avoir des exceptions.
Bien sûr, donc toutes ces personnes en fait qui sont conjoints de pâtissiers ou de pâtissières ont aussi le droit de s'exprimer, de faire partie de la famille de la pâtisserie, de les écouter, etc. Donc c'est ça aussi, c'est un autre projet que je veux porter.
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
Voilà, un beau pâtissier qui m'a donné envie de pâtisserie. Remarquez, c'est normal le dimanche, hein, c'est assez traditionnel d'aller chez son pâtissier chercher les petits gâteaux pour le déjeuner du dimanche que je vous souhaite en famille ou avec des amis. Dans un instant, après le journal, vous retrouverez Alexandre Devecchio pour les Irréductibles. Il reçoit ce matin Olivier Rey et Eric Satin. Et puis ensuite, c'est Nathalie Schrein-Guirma, c'est ça la France, avec son Made in France à sa manière. Je vous laisse à l'écoute de Sud Radio aujourd'hui et toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour dérouler l'actualité de tout ce qui se mange et se boit parfois. Bonne journée.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.